Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40, vous êtes sur France Inter, c'est lundi matin et c'est l'instant M.
Vous vous coupez ?
Non, je vous demande.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est la vidéo de propagande la plus célèbre de l'État islamique. 21 prisonniers coptes en combinaison orange, alignés et décapités sur une plage. Ces images, fondatrices de la terreur, selon Daesh, ont été tournées à Sirte, capitale de l'organisation djihadiste en Libye, occupée, ville occupée entre 2014 et 2016. La ville est aujourd'hui un champ de ruines. Un journaliste qui infiltre et sillonne les arcanes de l'État islamique depuis des années y recueille des témoignages de bourreaux, des témoignages de leurs femmes et des témoignages de leurs victimes. Et ce, pour donner corps et chair à une somme de documents administratifs exceptionnels, débusqués dans l'ordinateur personnel d'un émir de Daesh. Une nuée d'archives et de traces bureaucratiques qui permettent de pénétrer dans le cerveau du monstre.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Kamal Redouani.
Bonjour.
Daesh dans le cerveau du monstre, c'est un livre paru chez Flammarion, sous-titré « Les documents secrets de Daesh ». J'en montre la couverture pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et c'est un documentaire diffusé sur France 5 demain soir à 20h50. Donc c'est le prime time de France 5. Et c'est un film produit par Kappa. On va le décortiquer ensemble, ce cerveau, cet ordinateur et puis surtout votre travail sur le terrain. Mais un petit mot d'abord pour vous dire, et c'est un tout autre sujet, que le Festival de la Fiction de la Rochelle a fermé ses portes hier. Un petit mot donc du palmarès. On retiendra une très belle moisson pour Arte qui revient en force dans la série Meilleur téléfilm. C'est Jonas de Christophe Charrier qui a également été nommé Meilleur réalisateur.
Pourquoi tu l'as pas dit ?
J'avais honte.
T'avais 15 ans.
Bah alors cette rentrée ?
Il y a un nouveau dans la classe. Il a une cicatrice qui va de là à là au moins.
Mais fais gaffe Jonas.
Meilleure mini-série toujours primée au Festival de La Rochelle, les 6 épisodes de Jeux d'influence de Jean-Xavier de Lestrade.
Je vais déposer un amendement. Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques.
J'ai pas envie de passer pour le ministre qui défend les pesticides. Tu comprends ça ?
Vous savez garder un secret. Ce sont des missions de lobbying que je voudrais vous confier.
Meilleur scénario, c'est encore du Arte et c'est Une vie après de Jean-Marc Brondolo. Et puis la meilleure série primée à La Rochelle, la meilleure série, vous la connaissez. C'est 10%, dont la saison 3 est très bientôt de retour sur France 2. Voilà, mon invité se nomme Kamal Redouani, des années de travail sur le terrain de l'État islamique. On va parler de cette expérience de journaliste, de ce qu'elle vous permet à la fois de lire, de comprendre, d'analyser, ce qu'elle vous permet de recueillir sur le terrain. Je recite les 3 sources à partir desquelles vous avez travaillé pour ce livre et pour ce film qui sera diffusé demain soir sur France 5. L'ordinateur d'un émir de Daesh qui vous a été confié, ordinateur personnel. Également, et c'est une autre source, une centaine de vidéos. C'est extrêmement intéressant parce qu'on comprend bien à travers que ces vidéos que toute la vidéo ne sert pas à la propagande. Hein. Il y a une volonté de l'État islamique de s'auto-documenter, de s'auto-archiver, Kamal Redouani.
Tout à fait. C'est assez, pour moi, c'était étonnant de voir qu'il n'y a pas simplement que des vidéos de propagande, qu'ils mettaient les moyens aussi pour archiver leur propre vie, leur propre pouvoir à Sirte ou ailleurs.
Et puis enfin, le téléphone portable d'une femme qui s'appelle Fatma, c'est son vrai nom, hein, ça n'est pas un pseudonyme, Oum Fatma. Commençons par ce téléphone portable parce que ça permet de pénétrer l'État islamique dans sa dimension privée. Les anniversaires des enfants, le quotidien, les fous rires à la maison avec son mari, qui est un combattant, un homme dangereux, jusqu'à l'assaut final, la libération de la ville. Oum Fatma sait qu'elle va mourir, elle filme ce qui l'entoure et elle lance un appel désespéré. C'est en arabe, mais je vous fais entendre la voix de cette femme.
نسى الله يتقبل يا ربي ودعوا لي ربي صبرني بس ربي صبرني على فراق محمد السلام عليكم.
splendeur et misère de l'État islamique à travers le téléphone portable d'une femme. C'est un peu ça, non, Kamal Ridouani?
Exactement. Quand on écoute cette voix, c'est une voix d'une personne qui allait mourir. Enfin, c'est les derniers jours de l'État islamique en Libye. Enfin, moi, j'étais ému. Je me suis dit, waouh, à quelques minutes de la mort, à quelques heures peut-être, elle lance cet appel. Mais en même temps, quand on analyse ce qu'il y a dans son téléphone et qu'on découvre que cette femme n'était pas simplement juste une femme, c'était une femme de combattante, mais elle est petite fille de djihadistes, et que elle, son discours, ses échanges avec ses parents, c'était des échanges de haine vis-à-vis de l'Occident, de haine vis-à-vis de ceux qui les combattent, de haine vers le monde, et qu'elle se réjouissait quand il y avait des attentats ailleurs. Donc cette voix, finalement, elle perd finalement toute cette humanité.
Absolument.
Qu'on entend.
Alors, elle perd toute cette humanité, en même temps, vous choisissez de montrer le visage de cette femme, comme de son mari, vous floutez simplement le visage de leurs enfants. Cette femme, dites-vous, a disparu sous les décombres. On est sûr qu'elle a disparu sous les décombres. Sûr qu'elle est morte aujourd'hui.
Je ne peux pas être sûr qu'elle est morte à Sirte, mais ce qui est sûr et certain, c'est que elle a vécu jusqu'au quelques jours avant la chute de Sirte. J'étais là-bas. Je sais que les bombardements de la coalition, je sais que les combattants n'ont pas laissé énormément de chance à des djihadistes de pouvoir survivre. Ils ont essayé de faire sortir des femmes et des enfants. J'ai pas entendu, j'ai cherché, j'ai posé des questions, j'ai enquêté, j'ai pas entendu qu'une Oum Fatma a réussi à survivre.
Alors passons donc à cet ordinateur qu'une source dont vous gardez l'anonymat vous confie. Il appartient à un homme puissant, extrêmement dangereux, comme vous le confirment les services de renseignement libyens. Aujourd'hui, cet homme est égyptien, il a été proche des sommets d'Al-Qaïda, il a été l'un des premiers à prêter allégeance à Al-Baghdadi, le leader de Daesh. Après les débuts de l'occupation, c'est ça qui est extrêmement intéressant, on voit bien que le masque de l'État islamique va tomber très vite à Sirte, et la population va le comprendre très rapidement, à commencer par en fait l'application d'une loi islamique à travers un tribunal. Ce qui est très intéressant, Kamal Ridouani, c'est qu'à travers cet ordinateur, vous pénétrez tout un code pénal, vous pénétrez également toute une comptabilité pénale et judiciaire. Tout est archivé et consigné des actes de police et de justice.
Exactement, cet émir recevait finalement le bilan quasi quotidien, hebdomadaire, des condamnations, des morts, etc. C'est lui qui donnait l'aval d'ailleurs des condamnations, c'est lui qui indiquait à quel endroit la personne devait mourir, est-ce qu'il fallait qu'il y ait la présence des parents ou pas. Et c'est incroyable de voir que l'État islamique comptabilisait l'horreur, leur pouvoir. Enfin, c'est assez incroyable de voir ces feuillets qui défilaient sous mes yeux, c'est des tableaux Excel. Avec nom, prénom, pourquoi il a été jugé, qui l'a attrapé, est-ce que c'est l'État islamique, est-ce que c'est l'armée des djihadistes, etc. Enfin, tout est comptabilisé.
Alors,
ces
tableaux Excel, vous avez voulu redonner des corps, des voix et de la chair, parce que ce sont des gens qui ont souffert dans leur chair. Vous avez retrouvé un de leurs premiers prisonniers, il avait 15 ans à l'époque, il a passé 3 semaines en prison pour avoir fumé la chicha. Pour vous, il revient sur les lieux où il a été enjôlé.
Deux djihadistes me tenaient de chaque côté et ils serraient mon pied jusqu'à la limite du supportable, jusqu'à ce que le sang ne circule plus. Et ils me frappaient jusqu'à ce que je ne puisse plus me mettre debout. Voici un autre genre de torture. Il prenait cette règle et il nous obligeait à mettre nos doigts comme ceci. Et ils arrachaient nos ongles comme ça.
Kamal Ridouani, vous pénétrez l'ordinateur de cet émir et en même temps, donc, vous avez donné un visage et une voix aux victimes. Vous avez voulu aussi donner un visage et une voix au bourreau. Alors, l'émir qui possédait cet ordinateur, qu'est-il devenu ?
L'émir est mort.
C'est une certitude.
Exactement.
Voilà. Donc, vous allez chercher un autre émir pour avoir finalement un son de cloche à ce niveau de la hiérarchie, c'est cela ? Vous allez le chercher en Turquie ?
Tout à fait. Je me suis dit, mais comment un être humain ? La réalité, c'est que je me posais la question, c'est comment un être humain peut faire tout ça ? C'est-à-dire ce que je découvrais moi dans cet ordinateur. Et j'ai voulu voir les yeux dans les yeux un autre émir qui a le même pouvoir que lui, qui puisse finalement me dire ça. Honnêtement, je me suis dit peut-être qu'il y a un peu d'humanité dans ses yeux, mais c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'ai ressenti. J'avais un homme en face de moi qui n'avait aucune pitié, aucune émotion dans le regard, dans le visage, et qui annonçait la haine, la barbarie, comme ça.
Alors,
froidement.
Il a 34 ans.
Tout à fait.
Il est caché à Istanbul au moment où vous obtenez cette interview. Alors, cette interview, c'est un deal, évidemment. Et là, pour le coup, vous protégez son identité. Hein. Il est filmé dans le noir.
Exactement. Exactement. Tout simplement parce que quand on est journaliste, quand on travaille sur ces terrains, on fait des deals parfois. Et moi, je respecte ma parole de telle sorte que demain, quand je repars sur les mêmes terrains, que je puisse avoir accès encore à des djihadistes, pour que je puisse former, sinon on me ferme la porte définitivement.
Alors sachez que cet homme de 34 ans que vous avez interviewé, cet émir, a été arrêté quelques jours, quelques semaines, vous n'avez pas la date exacte,
exact. Hein,
mais après votre interview. Alors, je vais vous faire écouter un extrait de ce qu'il dit. Le film qui est diffusé demain soir sur France 5 est interdit au moins de 10 ans. Alors, si vos enfants ne sont pas à l'école ce matin, bah, baissez un petit peu le son de la radio pendant une ou deux minutes. Voilà, juste le temps de cet extrait.
Par exemple, j'ai eu l'information selon laquelle un groupe de gens se droguait. On a fait une descente chez eux. On les a pris. On leur a ligoté les mains, masqué les yeux, et on leur a fait baisser la tête. Et on a tiré sur chacun d'eux, moi et six de mes gars. Chacun s'est chargé d'une tête. Un autre homme avait, comment dire ça, couché avec un autre homme. Il méritait la mort, bien sûr. Je ne l'ai pas tué avec mon arme. Je l'ai traîné jusqu'en haut d'un immeuble et je l'ai poussé dans le vide.
Voilà, interview d'un émir de Daesh qui a été arrêté peu après cet entretien. Kamal Redouani, que vous avez mené à Istanbul. Comment avez-vous commencé à travailler sur le terrain de l'État islamique? Pourquoi avoir continué à dérouler cette pelote? Pourquoi y être retourné sans cesse, puisque c'est votre histoire? C'est un grand morceau de votre histoire de journaliste. Et d'homme aussi, parce que c'est un choix. C'est pas qu'un choix de journaliste.
C'est les djihadistes qui sont venus sur un territoire que je couvrais. C'est-à-dire le monde arabe et le Moyen-Orient. Et ça s'est passé en Irak. Ma première rencontre avec les djihadistes s'est déroulée en 2005-2006, où j'ai découvert, alors que Saddam venait, la chute de Saddam, voilà, j'ai découvert que les djihadistes venaient petit à petit s'installer, mais j'ai compris qu'ils s'installaient durablement dans cette région et qu'ils étaient en train d'attirer vers eux, à l'époque, les sunnites irakiens et ils allaient mettre la main sur le territoire irakien. Et après les révolutions arabes, alors que là, je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est extraordinaire, cette jeunesse qui a envie de liberté, de démocratie, je rêvais de ça. Ça s'est déroulé. Et puis, vraiment, quelques mois, par exemple, en Libye, quelques mois après la chute de Kadhafi, j'étais à Derna, et là, je croise des djihadistes qui étaient déjà en train de prendre le pouvoir dans la région. Et là, je dis, c'est mort. Les djihadistes sont en train de mettre la main sur les révolutions. Ils vont effacer tout ça, réduire ces révolutions arabes en néon, et malheureusement j'ai eu raison, enfin j'ai pas eu tort, j'aurais aimé réellement que ça se déroule autrement.
Justement, c'est quelque chose que vous racontez très bien à travers tous ces documents que vous déroulez dans le film de France 5, c'est la façon dont 3500 combattants sont arrivés petit à petit à Sirte, des combattants à qui on offre un salaire, à qui on offre, ils vivent bien, c'est ce que vous racontez, vous avez beaucoup de photos, beaucoup de vidéos pour le montrer, des appartements spoliés à la population qui leur sont proposés. On leur offre également des femmes. Ça aussi, tout est consigné dans l'ordinateur de l'émir. Les mœurs, la façon dont on régit la vie sexuelle, le mariage, le divorce.
Une femme a été mariée avec 17 hommes. 17 hommes. Un mois avec l'un et le suivant avec un autre. Les djihadistes se l'échangeaient contre une voiture ou quelques billets. Ou simplement, ils en avaient ras-le-bol et ils l'offraient.
C'est évidemment ce que vous mettez en exergue, le parallèle cruel, injuste, insupportable entre le sort réservé aux djihadistes et le sort réservé à la population, alors que le dogme est le même, est supposé être le même.
C'est supposé être le même, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. C'est-à-dire, dans l'intimité, les djihadistes vivaient autre chose, vivaient dans un autre monde que celui qu'ils imposaient à la population, qu'ils imposaient avec des coups de fouet, avec la mort. Et donc, eux profitaient plus de la vie et profitaient de leur pouvoir, de leur force pour s'enrichir, pour avoir des femmes et des esclaves aussi qu'ils s'échangeaient. Donc c'est un système hypocrite, tout simplement. Et quand on rentre dans l'intimité, c'est-à-dire dans le téléphone, quand on découvre la vie d'une famille djihadiste et quand on voit qu'ils fêtent par exemple les anniversaires, qu'ils interdisent à la population, bien sûr, parce que c'est un anniversaire, ça, c'est l'Occident qui a inventé ça, donc, et qui chante joyeux anniversaire en arabe, c'est assez incroyable.
On voit que
c'est un monde, l'intime est complètement différent de ce qu'ils imposaient à la population.
Voilà, et de l'espace public. Autre extrait, une vidéo de menace d'attentat. Un jeune djihadiste ne comprend manifestement absolument rien au message qu'il est supposé enregistrer. Ça met le doigt sur la formation de ces djihadistes et ça met le doigt aussi sur quantité de documents que vous avez entre vos mains, Kamal Redouani, à savoir comment justement on forme un futur combattant.
Hier, c'était la France. Aujourd'hui, la Belgique. Demain, ce sera l'Angleterre. Wallahi, on vous combattra jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna. Tant que vos avions viendront nous frapper dans notre terre, wallahi, on fera des explosions. On vous enverra des voitures d'explosifs. On vous enverra des hommes qui aiment la vie, qui aiment la mort, comme vous aimez la vie. Ouais, d'accord, Abdurab. Donc, je me suis trompé.
Voilà, il comprend absolument rien à ce qu'il raconte. Il est très très jeune. Je ne sais pas si vous l'entendez à sa voix. L'émir caché à Istanbul que vous avez réussi à interroger vous dit, vous savez, après les attentats en France, tous les membres de mon équipe qui ont stage là ont tous voulu partir faire la même chose.
Exactement. Et il y en a quelques-uns qui sont partis. C'est ce qu'il m'a dit pendant l'interview. Tout simplement parce que finalement, commettre un acte comme ça, c'est des galons. C'est une jeunesse qui a envie qu'elle soit citée, qui a envie de se faire connaître. Ils forment les jeunes. Ils les attirent avec l'argent, avec des femmes, avec une voiture, etc. Puis après, ils les envoient vers la mort, tout simplement. C'est un lavage de cerveau, mais qui permet finalement de leur donner la force, l'énergie, le courage d'aller tuer leur propre famille. Celui-là, il se dirigeait vers l'Europe. Il a envie de partir en Europe, il y en a plusieurs, et c'est Émir qui m'a annoncé ça, qui m'a annoncé qu'il y a des jeunes chez lui qui sont venus en lui disant on voudrait partir, on aimerait faire la même chose que ce qui s'est passé à Paris, on aimerait aller en commettre des attentats. C'est waouh, on se dit mais on n'a pas réussi. Enfin, moi je me dis mais tout le travail que j'ai fait ne sert à rien.
Vous continuez?
Je continuerai, bien sûr.
Qu'est-ce que vous faites d'une somme de documents aussi, on va dire, aussi stratégique que ce que vous avez entre les mains, Kamal Redouani? Est-ce que quand on est journaliste, on s'interroge et on se demande si on livre pas ça aux renseignements, aux autorités, à l'armée?
Alors d'abord, avec Philippe Levasseur, ACAPA, la première question et la première chose qu'on a fait, c'est de vérifier si les documents...
Bien sûr. C'est un an de travail d'analyse.
Mais d'abord, c'est de vérifier si les documents, si ça contenait pas des documents qui nous montrent ou qui parlent d'un attentat futur.
D'accord.
Du moment où il n'y a pas eu de documents qui analysent, qui donnent des informations sur un attentat futur, à ce moment-là, on a décidé, avec Philippe Levasseur, de garder ça secret, voilà. Après, vous savez, quand on est un journaliste qui travaille sur le terrain, on peut pas se permettre d'être associé au renseignement, parce que sinon c'est la mort pour nous sur le terrain.
Merci beaucoup Kamal Redouani. Le film est produit par Kappa, il s'intitule Daesh dans le cerveau du monstre et il est diffusé demain soir sur France 5.